Pour commencer, je voulais vous demander peut-être qui est déjà allé en Afghanistan dans la salle. Personne. Moi non plus, je suis jamais allée en Afghanistan et je vais vous parler de tout un projet que j'ai monté sans être jamais allée en Afghanistan. Alors, donc sur mon ordi, je vois bien l'image. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux faire pour que ça apparaisse sur l'écran. Alors, je vais vous dire un petit peu le programme. Donc, le programme, c'est que d'abord, moi, je vous parle un petit peu, je vous raconte ce qu'on va entendre aujourd'hui. Donc, d'abord, une petite introduction par moi. Je vais vous parler de comment donc, j'ai réussi à faire du travail de journaliste à distance. C'était la première fois pour moi et ça a plein de conséquences sur la façon de travailler et sur toutes sortes de questions que je me suis posées. Ensuite, on va accueillir Ra et Marwa qui vont venir répondre à mes questions. On va aussi écouter des sons, on va regarder des vidéos. Et ensuite, en troisième lieu, on va avoir un question-réponse. Je pense que certains d'entre vous ont préparé des questions. Merci. Et du coup, c'est à ce moment-là que je vous les poserai. On va bien s'amuser. Alors, à ce moment-là, normalement, je vous montre des images. On va pouvoir skipper les premières slides dès qu'on a l'image. Bon, moi d'habitude, en fait, je travaille ici à la Maison de la Radio depuis une quinzaine d'années. J'ai fait des études d'histoire après le bac, puis j'ai fait des études de journalisme. Et ensuite, je suis arrivée en stage ici à la Maison de la Radio à France Inter, au sixième étage. Enfin, avant, on habitait dans un autre bâtiment. Et j'ai commencé à faire de la radio ici donc il y a une quinzaine d'années. Et ce qui est génial avec la radio, c'est qu'on peut, quand on fait du reportage, aller sur le terrain, rencontrer plein de gens, manger plein de choses très différentes aussi. Je suis allée par exemple en Lettonie où j'ai mangé des espèces de raviolis. Je suis allée dans plein de pays d'Europe où j'ai mangé plein de choses différentes. J'ai rencontré aussi plein de gens différents, passionnants. Et en fait, la rencontre physique entre deux personnes autour d'un micro, c'est souvent des moments merveilleux. Mais ce serait bien de vous montrer les images quand même. Bon, on regardera les slides en accéléré tout à l'heure. Donc j'ai été dans plein de pays d'Europe faire toutes ces rencontres. Et ensuite, il y a eu le Covid, dont vous vous rappelez sans doute. Comme vous tous, je pense, tous et toutes, j'ai dû rester à ce moment-là enfermée chez moi, dans ma maison, avec pas grand-chose à faire. Et je me suis dit que c'était assez intéressant. Je me demandais en fait comment ça se passe le Covid chez tous les gens que j'ai interviewés dans plein de pays du monde. Comment est-ce qu'eux, ils vivent ça ? Est-ce qu'ils ont le droit de sortir de chez eux ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Est-ce qu'ils ont encore le droit d'aller au travail ou pas ? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller à l'école ? Je me suis posé plein de questions là-dessus, et donc je leur ai proposé à tous et toutes de m'envoyer des notes vocales à ce moment-là, et je les ai rassemblées sur une plateforme que j'ai mise en ligne. Et donc j'ai reçu des centaines de sons de plein de pays dans le monde, avec plein de gens qui me racontaient comment ils vivaient la situation. Donc il y avait des gens qui enregistraient, par exemple, je me rappelle en Inde, il y avait une fille qui était en Inde dans un tout petit village et elle m'avait envoyé un son où elle avait enregistré ses parents qui se coupaient les cheveux entre eux parce qu'il n'y avait pas non plus de coiffeur ouvert en Inde dans ce tout petit village. Et donc le son, en fait, l'ambiance qu'elle a envoyée, j'entendais ses parents parler dans une langue locale, sans doute parlée par pas beaucoup de monde, et je les entendais discuter entre eux, ils rigolaient parce qu'ils arrivaient évidemment pas à se couper les cheveux, ils faisaient des coupes que j'ai pas vues mais qui devaient être affreuses. Et donc c'était, juste avec le son, j'avais l'impression d'être avec eux en Inde, dans ce tout petit village. Et donc je me suis dit, super, ce système, il fonctionne, ce système pour recevoir des notes vocales de partout et pour décrire des lieux et raconter des histoires sans se déplacer, puisque je ne pouvais pas voyager à ce moment-là. Et donc, en 2021, quand les talibans ont pris Kaboul, je me suis dit que j'allais demander à deux jeunes filles de me raconter leur histoire depuis Kaboul via des notes vocales. Est-ce que je continue ou est-ce qu'on pense que je vais avoir l'image bientôt ? Ou je continue comme ça, avec la force de ma voix ? Oh, si vous aviez vu mes slides, franchement, j'ai tellement bossé. Ça va venir. Bon, non, mais on va avancer. Je regarde l'heure, 37. En fait, quand j'ai commencé à enregistrer des gens de partout, il a fallu que je mette en place une méthode. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà, vous échangez sans doute beaucoup de vocaux avec des potes ou avec la famille. Ça peut être des messages qu'on reçoit qui sont très très longs, qui font 30 minutes. Vous me faites un signe quand ça s'allume hein, derrière moi, ok ? Donc ça peut être des sons vraiment très longs qui durent 30 minutes. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de recevoir des vocaux interminables et du coup on les écoute en accéléré, mais même en accéléré c'est un peu casse-pied. Et donc en fait je me suis dit il faut que je mette en place une méthode pour que tous les gens qui m'envoient des notes vocales de partout dans le monde, eh bien ces notes vocales elles fassent maximum 4 minutes. Et je vais leur donner à tous les mêmes instructions pour que je puisse ensuite les utiliser et qu'elles puissent parler à tout le monde. Que n'importe qui écoute cette note vocale envoyée de quelqu'un en Inde, eh ben, ça puisse lui faire comprendre où il se trouve et qu'est-ce que ça raconte. Est-ce qu'elle est pas belle, cette image? Bon, voilà, ça c'est Marwaira. On va tout refaire en accéléré, vous êtes prêts? Alors voilà, trop beau, une petite rencontre autour du podcast. Le programme, vous vous rappelez du programme? Alors, voilà, ça c'était les photos dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quand je pars en reportage, là vous voyez, j'étais allée voir une manifestation de jeunes laitons. Il y a des pancartes écrites en laiton qui faisaient une manifestation pour le climat. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des manifestations pour le climat. J'étais allée voilà, manger ces délicieux raviolis là en Ukraine. Et là vous voyez aussi en haut la richesse et qu'on peut rencontrer des gens incroyables. Donc là par exemple c'était des soldats LGBT en Ukraine que j'avais rencontrés et qui aujourd'hui je ne sais pas où ils sont. Mais à l'époque, se battaient pour avoir le droit d'aller sur le terrain de guerre comme les autres et de pas être discriminés. Là aussi, j'avais été rencontrer une jeune femme en Belgique qui m'avait ouvert les valises de son grand-père pour me montrer plein de documents. Donc c'est quand on est en reportage, on peut rencontrer les gens, vivre des moments assez forts. Et aussi, il faut toujours penser à décrire. Donc par exemple, là c'est une photo de la fille avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la valise. Mais évidemment, pour le reportage, il fallait que je lui dise « décris-moi ce qu'on voit, raconte-moi » parce qu'il n'y a pas d'image en radio, évidemment. Alors... Ensuite, ça, c'est ce dont je vous parlais. Donc, j'ai emmagasiné plein de notes vocales de plein de gens qui m'en ont envoyé de partout dans le monde. Donc là, il y avait une jeune fille en Italie, un gars qui était à Rio et qui racontait les manifestations avec les gens qui tapaient dans les casseroles parce qu'ils étaient fâchés contre leur gouvernement pendant le Covid. Il y avait une nana qui était partie en voyage en Argentine au moment où le Covid est arrivé et elle a passé du coup plusieurs mois toute seule dans sa tente. Donc elle me racontait à quoi ça ressemblait ça. Et il y avait une nana qui était aussi à l'île de Pâques. Et à l'île de Pâques aussi, il n'y a plus d'avion, et donc elle était coincée là-bas pendant, elle, plusieurs années. Et donc elle m'envoyait ses notes vocales régulièrement pour me raconter à quoi ça ressemblait l'île de Pâques confinée. Donc j'en étais là, je vous parlais de qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand on veut obtenir des notes vocales de tout le monde et qu'elles soient aussi intéressantes alors qu'on s'adresse parfois à des inconnus, qu'on leur envoie un note vocal, ils n'ont jamais fait de radio, ils ne savent pas qui je suis. Et donc ce que je commence par faire, c'est que je vais moi-même sur mon balcon. Donc à l'époque, je suis toujours confinée dans mon appartement. Et ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte-fenêtre de mon appartement, ils entendent le bruit, ils entendent que je rentre, que j'arrive dehors, qu'il y a des bruits de voiture, et je leur dis, voilà ce que je vois. Et en fait, à ce moment-là, pour la première fois de leur vie, pour beaucoup qui n'écoutent pas beaucoup de radio, ils se rendent compte que juste en écoutant le son et en entendant ma description de ce que je vois, ils ont l'impression de voir ce que je vois. Ils ont l'impression d'être avec moi sur mon balcon et de s'imaginer des choses, de s'imaginer ce qu'il y a autour de moi. Et donc, ce procédé, il est un peu magique, je trouve, en radio. Et donc, c'est ça que j'ai demandé à tout le monde. À chaque fois, je leur disais, voilà, tu vois, moi, je monte sur mon balcon, voilà ce que tu ressens, est-ce que tu vois comme tu as l'impression d'être avec moi? Maintenant, je veux que tu fasses pareil et tu me donnes l'impression d'être avec toi. Donc, enregistre les sons autour de toi, essaye de faire des notes pas trop longues, décris-moi ce que tu vois, parle-moi de ce que tu ressens. Donc là, par exemple, c'est le confinement, c'est dur, j'en ai marre, des choses comme ça. Et en fait, voilà, il fallait aussi que je fasse en sorte de toujours... c'était beaucoup de travail parce que toutes les notes vocales que je recevais, ils racontaient toutes des choses différentes. Et ensuite, il fallait que je les relance tous individuellement. Je leur dise, toi qui es à Rio, voilà ma question pour toi. Toi qui es là, c'est cette question-là que j'ai envie de te poser. Voilà, donc c'était beaucoup de travail. J'avais mon WhatsApp qui était en feu parce que je recevais des dizaines de messages toutes les heures.
You may hear the sound.
Voilà, donc là, c'est la slide suivante où il y a un son qui se lance automatiquement. Donc, je vais vous introduire ce son. Le 15 août 2021, est-ce que vous vous rappelez quand les talibans sont entrés à Kaboul? Est-ce que vous avez vu les images sur la télévision? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, alors c'était en plein août, donc peut-être que vous étiez à la plage ou peut-être que vous étiez en train de faire autre chose, en tout cas pas de regarder la télé, les nouvelles. En gros, les talibans, c'est un régime autoritaire, terroriste, certains diraient, et islamiste. Et ils étaient au pouvoir dans les années 90. Ensuite, les Américains sont arrivés, les ont chassés du pouvoir. Mais en août 2021, ils sont revenus. Petit à petit, ils ont repris le pays. Et en août 2021, le 15 août précisément, ils sont arrivés dans Kaboul. moi, je me demandais, comme il y avait plein de jeunes comme de votre âge qui n'avaient jamais connu les talibans, puisqu'ils étaient partis avant leur naissance, et c'est le cas de Ra et Marwa, deux jeunes filles qui avaient 20 ans à l'époque, et, enfin, au moment où je les ai contactées, qui n'avaient jamais connu les talibans. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ressentent? Déjà parce que c'est des femmes, et on savait très bien à l'époque déjà que les talibans allaient poser des menaces pour les droits des femmes. Et donc je me disais, qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles sont enfermées à l'intérieur, qu'elles regardent arriver les talibans? J'ai envie qu'elles puissent me parler de ça. J'ai envie de les entendre, elles. J'ai envie d'entendre ce qui se passe dans les maisons plutôt que de raconter ce qui se passe dans les rues. J'ai l'impression que ces images-là, on les voit déjà à la télé. Il faut trouver une autre façon de parler de ce qui se passe. Et donc je me suis dit, vous l'aurez deviné, il faut qu'on utilise ce système des notes WhatsApp. Je vais leur envoyer le petit son où je monte sur mon balcon, je leur décris ce que je vois et je vais leur dire, est-ce que à ton tour, tu peux enregistrer ce que tu vois, ce que tu ressens? Et peut-être, par exemple, donc c'est Marwa, la première jeune fille avec laquelle je suis rentrée en contact, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me décrire pour toi ce qui s'est passé le 15 août quand les talibans sont arrivés? Donc voilà le tout premier mot que j'ai reçu de Marwa. Vous allez voir qu'elle a suivi mes indications, elle décrit ce qu'elle voit, elle parle de ce qu'elle ressent. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout cette jeune fille, on ne s'était jamais parlé. Et je trouve que voilà, elle était dès le début hyper forte pour enregistrer des messages WhatsApp. Et c'est un son qui dure à peu près 2 minutes.
You may hear the sound. It is the Taliban.
Ce que tu entends là,
cars and motorbikes,
c'est le bruit
sound,
des voitures et des motos, des talibans qui patrouillent dehors.
I'm in the yard,
je suis dans la cour intérieure
and staring at the sky,
et je regarde le ciel.
I can see its beauty.
Il est beau.
I can see the lights on the street.
Je vois les lumières de la rue.
I can feel the pleasant air.
Je sens l'air doux sur mon visage.
It seems like everything is okay, but it is not.
On pourrait croire que tout va bien, mais ce n'est pas vrai.
I and my two younger sisters were in bed.
Ce soir-là, moi et mes deux petites sœurs, on était couchés. Mon frère est venu nous dire que les talibans avaient pris le contrôle de Jalalabad à Nangarh. C'est un quartier très proche de Kaboul.
And very near to Kabul. My little sister was really afraid.
La petite sœur avait très peur.
Started crying.
Elle a commencé à pleurer.
We tried to convince her that the news are
On a essayé de la convaincre
they won't come to
que les nouvelles étaient fausses,
and we are safe.
Qu'ils ne viendraient pas jusqu'ici, qu'on était en sécurité. Tout le monde est en sécurité.
We couldn't fall asleep.
On n'a pas réussi à dormir cette nuit-là.
After some hours,
après quelques heures, le gouvernement s'est effondré. Le président s'est enfui.
And they came into the city.
Et ils sont entrés dans la ville.
Everyone was crying.
Tout le monde pleurait.
On that day, we lost everything.
Ce jour-là, on a tout perdu.
We can't control our life, our destiny.
On ne contrôle plus nos vies ni nos destins.
From that night, we are scared.
Depuis cette nuit-là, on est terrifiés.
Everything looks to be okay.
On dirait que tout va bien.
It seems to be fine.
Ça a l'air d'aller.
But it is not really fine.
Et ce n'est pas vrai.
Voilà, ça c'est la première note, elle est pas mal. Hein. Bon après, c'est des choses très dures, je m'attendais pas à recevoir ça. J'ai eu l'impression tout d'un coup de comprendre ce que ça voulait dire pour rien qu'une seule personne. En fait, c'est toujours comme ça quand on parle d'une situation, en parlant de milliers de personnes qui sont affectées, ça semble très flou. Et là, tout d'un coup, quand il y a une seule personne qui vous raconte de elle, son histoire à elle, je sais pas vous, mais tout d'un coup, j'ai l'impression déjà de la connaître, d'avoir envie d'en savoir plus, et puis surtout de mieux comprendre le désarroi que ça a représenté pour tout ce pays de voir arriver les talibans. Marwa, que vous venez d'entendre, assez vite, elle a eu la possibilité de sortir du pays avec son mari. Et donc, on va en discuter tout à l'heure. Elle est arrivée dans un camp de réfugiés où elle est restée pendant 7 mois. Et en parallèle, j'avais été mise aussi en lien, c'est un copain qui nous avait mis en contact, avec Raa, une autre jeune fille qui est en fait une des toutes bonnes amies de Marwa. Elles étaient collègues, elles travaillaient ensemble. Et Raa, c'était une jeune étudiante. Elle travaille donc dans une petite start-up. Et elle, malheureusement, elle n'a pas eu l'opportunité de partir à ce moment-là. C'était très difficile de quitter le pays. Et donc, elle est restée à Kaboul. Et je me suis dit, en fait, je vais faire le portrait de ces deux jeunes femmes. On va les entendre toutes les deux. Je vais garder le lien avec toutes les deux. Au début, je me disais, je vais faire le portrait d'une seule personne. Mais en fait, c'était très intéressant d'entendre ces deux histoires, de savoir ce que ça faisait de partir et ce que ça faisait de rester. Et donc, elles m'ont envoyé à peu près 1200 notes vocales sur ces 2 dernières années. On a échangé tout ce temps. Pendant des mois et des mois, elles m'ont envoyé des notes vocales pour me raconter ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient. Ce qui était intéressant avec la note vocale, c'est que évidemment ça permet d'aller en Afghanistan là où je pouvais pas aller à ce moment-là. Ça permet aussi, je sais pas si vous l'avez ressenti, d'avoir l'impression qu'elle est tout près de vous et que presque vous la connaissez, que c'est un peu comme presque une copine qui vous parle. Et ça, je trouvais ça très fort et intéressant comme avantage. Et puis ça permet aussi d'enregistrer des sons dans des lieux difficiles d'accès où elles seules peuvent avoir accès. Donc par exemple, si elles enregistrent des sons dans leur maison, elles sont toutes seules avec leur téléphone, le son va pas du tout être pareil que si moi je suis là, je débarque, la grosse belge, je suis belge, avec mon micro et puis je commence à poser des questions. Les gens vont pas du tout réagir de la même façon que si c'est quelqu'un de la famille qui enregistre des sons. Donc les notes vocales, ça donne un effet qui est un peu particulier aussi à ce niveau-là. Et bon, après, ce qui est compliqué, c'est que ça veut dire que je recevais des notes vocales tout le temps, la nuit, le jour, le week-end, et parfois c'est un petit peu difficile de se couper, de continuer à vivre sa vie à Paris. Ça permet aussi en même temps de se rendre compte de sa chance. Je sais que au moment des talibans, quand les talibans sont arrivés, on pouvait plus faire de vélo, par exemple. Donc moi, à chaque fois que j'allais prendre un Vélib, même s'il était un peu cassé, je me disais, c'est pas grave, au moins j'ai le droit de faire du Vélib. Et c'est quand même génial. Donc ça, c'était aussi une conséquence de ça. Et après, ça pose aussi des questions déontologiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que toutes les notes vocales que je recevais de leur part, je les mettais dans ce tableau. Vous voyez, je sais pas si vous avez arrivé à lire, c'est vraiment tout petit, mais tout en haut, il y a par exemple la toute première note vocale que l'on vient d'entendre, que j'ai reçue de Marwa, et qui raconte donc, voilà, ce qu'elle vit à ce moment-là. J'ai tout scripté, et c'est comme ça que je sais qu'il y en a 1200, parce que j'ai 1200 entrées dans mon gros tableau sur Google Doc. Et en fait, quand ce podcast est sorti, quand il y a eu des chroniques, on les a entendues à la radio, et il y a quelqu'un qui a entendu tout ça et qui m'a dit, ce serait intéressant, je sais qu'elles n'ont pas le droit de montrer leur visage, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est faire un film d'animation. Et comme ça, on pourrait dessiner leur visage et utiliser le son qu'elles ont envoyé. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire un film avec Denis Valgenwitz et Kubra Academy, qui est une artiste afghane. Les dessins que vous voyez ce soir, ce sont ses dessins, enfin cet après-midi. Je vais vous montrer la bande-annonce donc de ce film qu'on a fabriqué, qui est sorti en mars de l'année dernière. Et vous allez entendre certains des sons qu'on a déjà entendus, et puis vous allez les voir toutes les deux dessiner. C'est parti.
En août 2021, les talibans ont repris l'Afghanistan. Ra a choisi de rester à Kaboul. Marwa a fui. Elles ont commencé à m'envoyer des notes vocales pour partager ce qu'elles vivaient. Je suis Caroline, je suis journaliste pour la radio. Et voilà leurs journaux sonores.
Hello, bonjour. C'était une nuit vraiment, vraiment sombre où je me souviens que personne n'avait réussi à dormir. On a tout perdu en une nuit.
Hello Caroline, j'ai eu que quelques minutes pour préparer mes bagages et partir. Et je n'ai pu emporter que mon corps, sans mon âme.
On est tous de retour dans les années 90. C'était une de mes plus grandes peurs. Avant la prise de pouvoir par les talibans, moi, mon père, ma mère, ma sœur, on travaillait tous. Et maintenant on est tous au chômage. Bonjour, il est 6h30 du matin. J'adore le bruit de mes pas dans la neige. C'est si beau.
J'espère qu'un jour on pourra se revoir. Mais j'en suis pas sûre. Je suis désolée, je suis trop émotive.
Donc ça, c'est un film qui fait 30 minutes et que vous pouvez encore voir sur France Télé sur Slash. Dans ce film, il terminait avec l'idée que du coup, Ra et Marwa étaient des amies à Kaboul, que l'une avait dû partir, l'autre était restée, et on se demandait quand est-ce qu'elles allaient pouvoir se retrouver. Eh bien, aujourd'hui, elles se sont retrouvées. Elles vivent pour l'une à Strasbourg et l'autre à Paris. Et on va vous raconter comment elles se sont retrouvées. Avant de les faire rentrer sur scène, je voulais savoir si vous aviez déjà des premières questions à me poser sur ce qu'on s'est déjà dit là. Normalement, il y a quelqu'un qui va arriver avec un micro. Il y en a une là aussi. Bravo à ceux qui posent les premières questions. Vous êtes trop forts. Sinon, si tu l'as dit très très fort, je vais me rapprocher puis je viendrai la répéter.
En fait, déjà, Je me présente, je m'appelle Loseni, je suis un du lycée du Hermont. Du coup, ma première question, ce serait qu'est-ce qui les a personnellement poussés à quitter leur pays, à eux ? Et ensuite, comment ils se sont enfuis ? Et il y a des personnes qui les ont aidés à s'enfuir ou pas ? Alors ?
Comment ?
Et s'il y a des personnes qui les ont aidés à s'échapper ?
Ah ben, alors ce sont trois excellentes questions auxquelles on va répondre. D'ailleurs, tout de suite, si tu veux, est-ce qu'on pose une deuxième question ? Je ne sais pas s'il y a une question. Et c'est elle que je vais leur demander à elles de répondre directement. Elles vont te raconter. Ce sont des très bonnes questions. Il y a une question encore là-bas, et puis après, on les fait rentrer. Et après, il y aura encore un grand question-réponse à la fin. Donc, c'est pas moi qui choisis où va le micro. J'espère que les personnes qui avaient le bras levé. Ah.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Milan, du collège Pasteur à Villejuif. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'était illégal de quitter le pays ?
Encore une très bonne question à laquelle on va répondre. Effectivement, alors c'est pas illégal, mais il faut faire plein de papiers, il faut avoir des passeports, ce qui est très difficile à obtenir et ce qui coûte très très cher, et il faut avoir des visas. Et donc effectivement, c'est des démarches qui sont très longues et laborieuses. C'est intéressant de vous avoir posé ces deux questions parce que maintenant je vois que ces sujets-là vous intéressent, donc on va prendre bien soin d'y répondre. Et je vous propose qu'on les accueille et on continue le débat sur cette table. Alors, je vais aussi proposer... Alors, comme Ra et Marwa sont en train d'apprendre le français, mais elles ne parlent pas encore complètement le français, on a Evder qui va être là avec nous pour traduire leurs propos de l'anglais vers le français. Et donc, on l'accueille aussi. Merci à Eve d'être là. Merci à vous tous aussi d'être là. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux... c'est de savoir pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet. Quand je vous ai envoyé une note vocale un soir, je vous ai dit, est-ce que vous voulez bien me raconter Kaboul en août 2021, septembre 2021? Comment est-ce que vous avez décidé d'accepter? Marwa? Donc c'est Marwa qui est là, Marwa qui est partie dans les premiers temps, et Ra qui est là-bas, et Ra, elle est restée plus longtemps en Afghanistan.
Stay first. Go ahead. Hello, thank you so much for having us, and so nice to Bonjour. Be here with you today.
Merci beaucoup de nous accueillir
ici. It was a couple of days
ici.
After the collapse of the government in Afghanistan, and from one night to another, I didn't have all my rights to go and walk out of my home. I
en fait, du jour au lendemain, dès que les talibans ont pris le pouvoir, je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus sortir. Beaucoup de femmes dans ma famille et d'hommes aussi ont perdu leur travail par ailleurs. Et puis, à ce moment-là, je reçois le message sur WhatsApp de Caroline et elle me demande si je veux participer à ce podcast, ce programme sur France Inter. Et les talibans faisaient la une des journaux, télévisés. Ils étaient en armes et ils empêchaient, bien sûr, les journalistes de rendre compte de toute la violence qui se déroulait, qui régnait à Kaboul. Pour ma famille et au nom des femmes et tout ça, j'ai trouvé que la main tendue par Caroline était une très belle occasion.
Merci. Ra, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Hello everyone, thank you so much for
Bonjour
being here.
Merci à tous d'être là.
The first time Caroline contacted me, it was September 2021.
Caroline m'a contacté, like c'était en septembre 2011. Après un mois après l'effondrement du régime afghan et la reprise du pouvoir par les talibans. Je crois que c'était exactement ce dont j'avais besoin à l'époque. Encore une fois, cette main tendue par Caroline, ça me faisait du bien d'exprimer ce que je ressentais et que quelqu'un entende notre appel à la justice.
Je me souviens que ta maman te disait quelque chose par rapport à la peur. C'est quelque chose auquel je pense souvent quand moi j'ai peur. Je me rappelle ce que ta mère te disait pour trouver du courage.
Exactly. I remember that my mom, I was also recently talking to her that I will always thank you for this advice you gave me.
À ma mère et je lui disais je te serai toujours reconnaissante pour ce conseil.
She was always telling us, live with fear, face your fears instead of wandering around.
La peur, so this was also et fais face for me something à ta peur,
to live with my fear and face
avec.
The fear that was in my life.
C'est ça qu'elle m'a appris, et je devais composer avec cette peur qui envahissait ma vie. Et justement, ces notes vocales, s'exprimer sur ce podcast, ça m'a permis ça, d'affronter la peur.
Effectivement, ça devait faire assez peur parce que c'était interdit par le fait de prendre la parole comme ça, comme deux jeunes femmes. Vous le faisiez de façon clandestine. Et c'est pour ça que vous avez pris des pseudos. Ra et Marwa, ce ne sont pas vos vrais prénoms. Et Ra, surtout, comme toi, tu es restée en Afghanistan longtemps après. Tu es restée pendant un an et demi après la prise de Kaboul par les talibans. On a mis en place plein de règles pour pouvoir continuer à échanger ensemble sans que tu prennes de risques.
Exactly. When I start getting more engaged with Caroline,
oui, exactement. Puis je m'engageais dans ce travail commun avec Caroline. Un ami mutuel est venu en Afghanistan. Elle était française.
And working in Afghanistan for international media.
Et elle avait l'habitude de travailler pour les médias internationaux. Well. Elle m'a donné des conseils.
For that time, I had to change Carleen's name to an Afghan name.
Et donc j'ai pris un pseudo d'un nom afghan pour
dans
Caroline.
Le répertoire. Why? Because in case they would stop you and
yes.
search your phone.
Oui,
and
au cas où ils t'arrêteraient. Voilà, il fallait maquiller, dissimuler les noms.
Because in some checkpoints, everything happens there.
Dans
it's just unexpected.
Les points de contrôle, à tout moment, on peut vous arrêter, c'est totalement arbitraire. On va fouiller vos vêtements, ce que vous avez. Donc, j'ai donné un nom afghan à Caroline. Au cas où un jour, on m'arrêtait parce qu'ils demandent tout de suite les talibans votre téléphone et pour qu'ils ne trouvent pas de preuves de nos échanges et de mon travail avec Caroline par WhatsApp.
Et donc, toi, tu es restée à Kaboul pendant un an et demi encore, comme je le disais. Et toi, Marwa, tu as eu l'occasion de partir très vite. Alors d'abord, tu as essayé de partir par l'aéroport de Kaboul. Dans les jours qui ont suivi la prise de Kaboul, c'était possible encore de prendre des avions de l'aéroport, même si c'était très compliqué. Vous avez peut-être vu des images de ça, d'Afghans qui essayent de fuir. Et Marwa, tu faisais partie de ceux qui essayaient de partir à ce moment-là. Est-ce que tu peux me parler de comment c'était ?
So it was a couple of days after the collapse, and at
oui,
some point,
deux, trois jours, I never lived under the Taliban regime before, so I was free. Et moi, je n'avais jamais vécu sous un régime taliban. J'avais le droit d'aller à l'école, de travailler, d'aller dans un café, de m'habiller de la manière dont je le souhaitais, de rencontrer mes amis. Donc, quand le régime de Kaboul est tombé, je me suis souvenue de tout ce que m'avaient raconté mes parents qui, eux, avaient connu le régime taliban précédent. Ma mère était sage-femme. Ma mère était sage-femme. Et maintenant, pour aller accoucher les femmes chez elle, etc., elle devait être en burqa.
And it was so difficult for her because it was only for women who was working in health sector, like other women they could not go to work.
Et ça c'était pour les femmes qui travaillaient dans la santé. Elles avaient encore le droit de travailler, même si elles devaient se voiler de pied en cap. Mais toutes les autres femmes n'avaient plus le droit de travailler.
It was written, no one would like to leave home unless whom is the mouth of a shark. So I couldn't see myself living the same experience of my life of my mom. I couldn't
je ne me voyais pas vivre ce qu'avait vécu ma mère. Je n'avais pas ce courage, je ne pouvais pas me projeter portant la burqa et être enfermée chez moi du matin au soir. Aucun but dans la vie, aucune activité possible, donc j'ai décidé de quitter le pays.
Et donc tu te rends une première fois. Alors il faut expliquer la majorité de ta famille, ta mère et tes frères et sœurs ont réussi à partir par l'aéroport de Kaboul pour les États-Unis parce que ta mère était, comme tu le dis, sage-femme et donc elle avait eu des contacts avec des organisations internationales. Mais toi, comme tu étais fiancée à l'époque, tu es restée avec ton mari, ton fiancé à Kaboul. Et au début, donc, il était question que tu restes là-bas. Et puis finalement, lui aussi a une opportunité de partir. Et comment est-ce que vous avez rejoint l'aéroport?
To the airport. And...
We tried, I think, 4 or 5 times because there was this time that NATO allies were still inside the Kabul International Airport, while outside.
L'aéroport international de Kaboul, il y avait un centre d'accueil réservé aux alliés, comme on les appelait.
Sorry. Marwa est passionnée, alors elle parle vite, mais c'est difficile pour la trad.
Way too fast. Okay, so can you say again, there was this area in Kabul airport for allied... people or those
so
who had
inside
worked.
The airport, there was the NATO allies and American troops.
Il y avait les troupes de l'OTAN et les troupes alliées et les troupes américaines qui occupaient une partie de l'aéroport.
So it was somewhere that everyone would wish to go and to get in because it was safe.
Et puis tout le monde qui était là voulait aller dans cette zone car il serait en sécurité dès lors.
Yeah. And we tried 4 or 5 times. It was like a spy movie.
On a essayé à 4 ou 5 reprises. C'était comme dans un film d'espionnage un peu.
We had codes, shapes. My shape was a triangle. My husband had a circle to
on avait des
present
formes
in a state of his name.
We had to hide comme our des phones. Codes. On devait cacher nos téléphones. On devait tout dissimuler, avancer caché.
To take the car with family members and children because there was checkpoints of the Taliban on the way and if
avec
there are
tous les membres de la famille si on a des enfants ça va ça permet de faciliter le passage des points de contrôle des checkpoints.
Yeah, so we tried I think 4 or 5 times.
Alors
we spent a couple of nights in front of the airport
avec des enfants avec nous.
One
on a passé
night,
plusieurs nuits devant
we never
l'aéroport
could get in. There was
une nuit il y a eu une explosion
Taliban checkpoints. They were shooting on people
et
au
checkpoint
the
les talibans
course,
tiraient en l'air tiraient sur les
there
gens
crowd
tout le monde
airport.
Était paniqué
of
il y avait une véritable foule des milliers
so
d'Afghans qui essayaient de quitter le pays donc on n'y est pas arrivé nous à ce moment-là.
And after a month, when the operations were stopped in Kabul International Airport,
et
there was one night
mois,
that I received a call from my husband.
J'ai reçu
I was not
un appel de mon mari. Je ne m'y attendais pas du tout.
I had like half an hour to prepare my backpack.
Et il me disait, ça y est, on peut partir.
House,
j'ai
so
une demi-heure pour
my
faire mon sac à dos et partir.
I told
j'ai réveillé
her that, we need to leave. And
ma mère,
after half
je lui ai dit, il faut
hour,
qu'on
parte.
Au bout d'une demi-heure, mon mari m'a rejoint.
We went to a city in Mazar, in
on est allé à Mazar,
we left there
une ville
in a safe
du Nord.
House for a couple of days,
et là, on
and
a été accueillis dans une maison sûre pendant quelques jours. Et puis, on a pu prendre un charter, un avion qui nous a emmenés hors du pays, au Pakistan.
Thank you. Donc ça, c'était quelques semaines après la prise de Kaboul. Donc la prise de Kaboul, c'était le 15 août. Et là, elle est partie à peu près en octobre 2021. Donc pendant ce temps-là, Raha, elle, est restée à Kaboul. Et parmi les interdictions, il y a eu plein de nouvelles mesures qui ont été prises par les talibans. On va vous raconter ça. Mais une des premières mesures, ça a été d'interdire la musique. Tout ce qui n'était pas de la musique religieuse était interdite. Et donc, je voudrais que tu me racontes, Raha, quelles conséquences ça peut avoir ça dans la vie. Je ne sais pas si vous imaginez. En fait, on ne se rend peut-être pas compte le nombre de fois par jour où on écoute de la musique, mais du coup, tout ça, il faut l'arrêter du jour au lendemain.
Exactly, it's very hard to disconnect yourself from music. I myself,
oui, exactement. C'est très difficile de se couper de la musique. Moi, j'adore la musique et je jouais de la guitare. Je n'aspirais pas à devenir musicienne professionnelle, mais c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Je créais, j'inventais des mélodies, je jouais des sons. Mais ça a été interdit, la musique, après l'arrivée des talibans. Ils détruisaient les instruments de musique. Il y avait des vidéos en ligne et même sur la chaîne de télé publique où on voyait les talibans massacrer des instruments de musique. C'était vraiment un crève-cœur pour tous les musiciens. Moi, j'étais amatrice, donc, mais j'avais une guitare que mon fiancé m'avait offert pour mes 21 ans, pour mon anniversaire. J'adorais cette guitare, elle m'était très précieuse. Et elle était belle, mais je ne pouvais plus la garder parce que les talibans passaient de maison en maison pour fouiller à la recherche d'instruments de musique.
That. On va écouter un son où justement elle me raconte à l'époque la guitare et ce qu'il a fallu faire au moment où les talibans sont arrivés.
Les talibans ont décidé de fouiller chaque maison à Kaboul et dans certaines provinces extérieures. La peur que j'avais les tout premiers jours m'est revenue d'un coup à cause de ma guitare. Mon père m'a dit de lui donner ma guitare pour qu'il puisse l'emmener ailleurs ou bien qu'il puisse la casser. Mais j'ai refusé. J'ai eu l'idée d'enlever les cordes et de les cacher ailleurs dans la maison. Comme ça, s'ils la trouvent, je leur dirai simplement que c'est une guitare très vieille et cassée et qu'elle ne produit aucun son. Voilà, comme ça, peut-être qu'ils ne pourront pas s'en prendre ni à ma guitare ni à moi.
En 2021, les talibans ont repris l'Afghanistan. Ra a choisi de rester à Kaboul. Marwa a fui. Elles ont commencé à m'envoyer des notes vocales.
Là, il y a une superposition de sons
vocales pour partager ce qu'elles vivent.
Je vais me remettre là, parce que là, ça fait pas de bruit. Bon, en gros, on n'entend pas, mais tu as dû enlever toutes les cordes de ta guitare, l'une par l'une, pour en fait faire semblant, vis-à-vis de ton père, que c'était un objet ancien, que c'était, et vis-à-vis des talibans, si jamais il y avait une fouille dans la maison, que c'était un objet ancien et que tu gardais ça, mais que ça pouvait pas produire de son, et que dans ce cas-là, c'était OK. Tu me racontais aussi à l'époque que, par exemple, quand on voyageait en voiture, à l'époque, elle écoutait l'autoradio dans la voiture, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et en fait, dès qu'il y avait des checkpoints, donc les checkpoints, c'est des endroits avec des barrières installées au milieu de la route où on peut plus avancer, il faut montrer ses papiers, il y a des talibans qui vérifient vos papiers avec des armes, donc il faut se tenir à carreaux. Et donc, à ce moment-là, il fallait éteindre l'autoradio. Si vous écoutiez l'autoradio, il fallait faire attention de bien l'éteindre dès que vous voyez au loin un checkpoint. Et je me rappelle qu'elle m'avait envoyé des sons où elle écoutait encore la musique dans sa voiture avec son fiancé à l'époque, en se disant, là, on a le droit parce qu'il n'y a pas trop de checkpoints, mais il va falloir qu'on l'éteigne. Et dans les premiers jours où les talibans sont arrivés, il y a des personnes qui ont été tuées parce qu'elles écoutaient la musique dans la voiture. Peut-être, Ra, tu peux me parler des autres interdictions qu'il y a eu, parce que progressivement, à part la musique, il y a eu d'autres choses qui ont été interdites.
Under the regime of Taliban, women are discriminating for so many things and they are banned.
Les femmes font l'objet de toutes sortes de discriminations, toutes sortes d'activités leur sont interdites, des activités qui sont un droit fondamental pour n'importe quel être humain. Les femmes afghanes sont privées de leurs droits fondamentaux. Le plus grave, c'est l'éducation. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, à l'université. Et quand je vous vois, vous tous assis ici, ça me réjouit le cœur et je me dis que vous devriez vraiment ressentir la chance, le privilège que c'est de pouvoir étudier. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles elles voulaient aller à l'université, elles ont essayé de braver les interdits. Ça fait 3 ans que les universités et les écoles sont fermées aux femmes et aux jeunes filles. Les femmes n'ont pas non plus le droit de travailler.
Et
le comité suédois a fermé ses bureaux en Afghanistan car ils recevaient trop de menaces parce que c'était encore un des rares endroits où des femmes travaillaient. C'est une très mauvaise nouvelle pour toutes les femmes et leurs collègues qui travaillent pour le comité suédois. Les femmes n'ont pas le droit d'aller dans les parcs, de voyager seules, de se déplacer seules. Elles ne peuvent aller nulle part ou être toujours accompagnées d'un chaperon, votre père, votre mari, votre oncle, votre grand-père. Sinon, en tant que femme, vous ne pouvez pas vous déplacer tout seul. Et aujourd'hui, j'ai pris le train de Strasbourg à Paris toute seule. Je me sentais vraiment privilégiée de pouvoir prendre un train seul, sans être accompagnée de mon père ou de mon mari. C'est une immense liberté.
They receive scholarships in European countries, American countries.
J'ai des amis qui ont reçu des bourses d'études dans des pays européens ou en Amérique, mais qui n'ont pas pu sortir d'Afghanistan car elles n'avaient pas un frère, un mari, et elles n'avaient pas pu se procurer de faux documents, car c'est ce à quoi on se résout. Mais justement, falsifier des papiers, ça peut coûter plusieurs jours de prison, évidemment. Donc les femmes ne peuvent plus aller dans les parcs, descendre dans la rue, aller au hammam, au salon de beauté, au marché. Tout est interdit. Et bien sûr, une femme ne peut pas conduire de voiture ni faire de vélo. Dans les rues de Kaboul, on voit une femme faire du vélo, on se dit elle est complètement folle, elle veut se tuer. On ne voit jamais ça. Donc, le matin, on se réveille, et si on est femme en Afghanistan, on n'a aucun objectif, aucun but dans la vie, rien à faire. Et c'est le sort de millions de femmes actuellement en Afghanistan.
Thank you, Raha. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, Marwa, donc tu arrives dans le camp de réfugiés, on va en parler à ce moment-là, tu arrives dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi. Je voulais juste vous demandez peut-être, Marwa, comment ça a été quand j'ai commencé à te demander d'enregistrer des notes vocales? Est-ce que tout de suite, tu as eu le courage, par exemple, quand tu as décidé de quitter l'Afghanistan, d'enregistrer des notes vocales? Est-ce que c'était facile pour toi, et notamment d'enregistrer des ambiances? Parce que je vous ai beaucoup demandé à toutes les deux d'enregistrer des ambiances.
When I started recording vocal notes,
quand j'ai commencé à enregistrer des notes vocales, j'ai commencé sur la terrasse de chez moi, sur le toit. Je n'avais pas parlé du projet avec les membres de ma famille, donc j'étais un peu intimidée, je n'osais pas enregistrer devant mes proches, car ils ne savaient pas ce que je faisais. Et à l'extérieur, c'était difficile, parce que je devais parler anglais, et je devais décrire les actes, les violences des talibans. Donc j'avais peur, je me disais, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un m'arrache mon téléphone mobile. Et dehors, j'étais habillée en abaya, cette robe très ample de couleur noire, et je cachais mon téléphone dans mon sac à dos, dans mon abaya, pour enregistrer.
On va écouter un des sons que tu as enregistré comme ça. C'est un son dans les rues de Kaboul. Donc, comme je vous disais, les ambiances, quand on fait de la radio, c'est super important parce que ça permet de raconter un lieu sans avoir d'image. Donc, je ne sais pas si je vous fais écouter un son des rues de Kaboul qu'elle a enregistré, comme elle l'a dit, en se cachant. Est-ce que vous arrivez à avoir des images mentales, à imaginer ce que c'est? Et peut-être que tu peux nous dire ce que tu voyais au moment où tu as enregistré. On écoute ce son.
Kabul is a city like Paris. It is very big. 7 million people living in the city.
Alors Kaboul, c'est une très grande ville, 7 millions d'habitants.
Traffic all the time.
Une circulation d'enfer
en permanence.
And people
selling street food on the streets.
Et puis beaucoup de petits marchands qui vendent de la nourriture dans la rue, sur les trottoirs.
It is during the Taliban regime, so you don't see women on the streets.
Mais comme on est sous les talibans, il y a aucune femme dans la rue.
Even not so many men, even men would not dare to face them.
Tant d'hommes que ça, parce que les hommes aussi ont peur des talibans.
Les hommes aussi.
Some of the few women that you would see, they are covered and they have to cover their face.
Que vous pouvez croiser sont couvertes de pied en cap.
And you see the Taliban members, of course, with their guns.
C'est imposé par la société et les talibans sont là, armés jusqu'aux dents avec leur pouvoir arbitraire. Il n'y a plus d'état de droit en Afghanistan, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils font peur parce que vous savez que ce sont en fait des brigands, des bandits, des assassins. Beaucoup, ce ne sont pas de vrais policiers.
L'ambiance suivante, c'est moi, donc, comme je vous disais, je suis jamais allée en Afghanistan, donc je suis jamais allée à un mariage afghan, et j'ai reçu énormément de notes vocales de l'une et l'autre, parce qu'il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de frères et sœurs, elles ont toutes les deux 7, 8, 9 frères et sœurs, et beaucoup de cousins, et donc beaucoup de mariages. Et c'est, tu m'as envoyé, Ra, beaucoup d'ambiance de mariage, et notamment là, on va entendre une ambiance et des chants de la soirée de Henna, qui est la soirée qui a lieu avant le mariage. On écoute.
So weddings are. Can I just describe how weddings are in Afghanistan? Very short. Here, people are in relationship, and then boys go to girl and propose her and sit in front of her. Will you marry me?
While in Afghanistan, it's different. You have to send your parents to the house of the girl to ask for the proposal. Mais en Afghanistan, faut faire la proposition officielle aux parents, et ce n'est même pas le jeune homme qui peut demander la main, c'est les parents du jeune futur marié qui doit demander la main aux parents de la jeune femme. Et pour montrer qu'ils acceptent, ils vont vous offrir des gâteaux, des confiseries, des pâtisseries. Et je me rappelle, lors d'un mariage, c'était un mariage plein de danse, de musique, tout vibrait de joie. Mais une fois que les talibans ont pris le pouvoir, les hôtels où l'on célébrait ces mariages ont fermé. Ils ont fini par ouvrir plus tard, mais entre-temps, toutes les célébrations avec de la musique, de la danse, sont devenues interdites. Et c'est vrai que le son, c'était un mariage, mais à l'intérieur de la maison, les femmes jouaient du daïra, et puis on frappe des mains, ce sont des chansons traditionnelles qu'on chante. Et puis vous savez, il y a un phénomène qui s'est développé parce que le pays a sombré dans la misère, où on marie les petites filles de plus en plus jeunes. Et il y a tellement de misère, et comme il n'y a aucune perspective de travailler, de suivre des études, beaucoup de familles marient les fillettes très jeunes. Et il faut faire ce que la famille décide, et ce sont les talibans qui donnent le là, en fait.
Alors, on va encore écouter deux sons. Donc, le suivant, c'est un son que j'ai reçu de la part de Marwa quand elle est arrivée, donc après être partie via le nord du pays, comme elle racontait tout à l'heure, via Mazar. Elle a finalement réussi à fuir en octobre, et elle est arrivée dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi, où il y avait des milliers d'Afghans qui étaient dans des camps qu'ils ont dû construire très très vite pour pouvoir accueillir toutes ces personnes du jour au lendemain qui sont arrivées suite à l'arrivée des talibans qui ont souhaité quitter l'Afghanistan, qui étaient menacés d'une façon ou d'une autre si elles restaient là-bas. Et donc parmi ces personnes, il y avait Marwa, et elle m'a envoyé ces sons. Donc là, on va entendre une ambiance qu'elle a enregistrée dans le camp.
Jodía, gorda.
Así por con él. ¿Por qué él? Ah, vale. ¿A qué me hay que pasarme? No, ok. ¿Tú estás morafta, Nazunja? با امریکا خواندن می خواندن متوجه شد با امریکا می گفتن
Je n'entendais pas Marwa à cause de la vidéo. Désolée, je n'entendais rien du tout. Pardon. Sorry. You can start again. Yeah.
Does it work now?
Yeah.
So when I arrived in the camp, I was quite hopeful.
Dans ce camp de réfugiés, because we were told that we will stay in the camp only for 2 weeks. On nous avait dit que on allait rester 2 semaines à peu près dans le camp.
But you never know how long it would take.
Mais en fait, on ne sait jamais combien de temps ça va se prendre d'obtenir toutes les autorisations. On a fini par rester plus de 7 mois dans ce camp de réfugiés.
En
fait, il y a 2 ans, exactement jour pour jour, je me trouvais dans ce camp de réfugiés à Abu Dhabi. Les premières semaines, j'étais complètement perdue. Et je ne savais pas quoi faire. On regardait des films pour s'occuper. On n'avait que ça à faire.
And we were counting the days, of course,
et on comptait les jours. Bien sûr, on avait hâte d'être libérés de ce camp et de pouvoir se réinstaller dans un pays en Europe.
But after some time, we saw that it's getting longer and longer.
Et au bout d'un moment, on a vu que notre séjour s'éternisait. Et ce n'était vraiment pas une vie. Mais pour s'occuper, on a créé un petit groupe avec une Afghane qui nous donnait des cours de sport. On faisait des exercices physiques. On a aussi créé un petit club de livres, si vous voulez. On dégotait des livres ici et là, on se les échangeait. Donc il y avait du sport et puis il y avait beaucoup de sociabilisation. Il y avait quand même plus de 15 000 Afghans. Des familles qui vivaient dans des tout petits logements, dans un petit 2 pièces. C'était vraiment un camp bondé, surpeuplé. Mais en même temps, c'était une vie nouvelle pour moi. Sous les talibans, je ne pouvais pas sortir, ou même avant, à cause de l'insécurité et de notre culture, je ne pouvais pas sortir le soir toute seule, par exemple. Et là, je découvrais toute cette liberté, pouvoir bouger sans mes proches, sans mon mari. Donc, je retrouvais mes copines, on prenait le thé, on discutait pendant des heures. Et puis, vous savez, il y avait du faux gazon dans le camp et ça nous donnait l'illusion d'être un petit peu, d'avoir les pieds dans l'herbe comme dans un parc.
Et oui, je me souviens que tu me disais, moi je recevais des notes vocales de toi tous les jours où tu racontais, et j'entendais tout le temps la même ambiance, même moi j'en pouvais plus de ce camp, et effectivement même le fait qu'il n'y avait pas d'herbe ou d'arbre, l'impossibilité de toucher des choses naturelles pendant 7 mois, je me rappelle aussi que tu n'en pouvais plus de la nourriture, parce que tous les jours c'était la même nourriture. Pendant que tu étais dans ce camp, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, il n'y avait pas beaucoup surtout d'internet, et pourtant tu as réussi à postuler pour intégrer une grande école qui s'appelle HEC. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ou peut-être que vous allez aussi un jour peut-être postuler pour cette grande école. En tout cas, tu étais dans le camp et tu écris ta lettre de candidature pour rentrer dans cette école. Et après, il y a eu l'interview.
Yes, I remember when I was in the camp.
Oui, je me souviens. My dream was to go quand out and dans ce camp, fried eggs in the morning. Mon like rêve, c'était d'en sortir et de manger 5 œufs pour le petit déjeuner. J'avais envie d'aller au fast-food, j'avais envie de vivre comme tout le monde.
And yeah, we didn't have a SIM card for Abu Dhabi.
On n'avait pas de carte SIM, mais on avait le Wi-Fi dans ce camp. Donc j'ai pu envoyer ma candidature pour HEC. Ils recevaient des étudiants de Syrie, d'Ukraine, de Biélorussie et d'Afghanistan aussi.
So I applied for HEC, I took my interview, and then my internet was cut for 10 minutes.
Donc j'ai répondu, il y avait un entretien, et pendant l'entretien qui était un peu décisif pour entrer à HEC, et ben l'internet est tombé en rade pendant 10 minutes.
But it worked. I applied, I took my interview. Mais
au final,
I wrote so many essays when I was in the camp.
Ça a marché.
I went through so many calls, but I'm glad that it worked and I'm here today.
Grâce à plein de coups de fil, etc., j'ai fini par régler, par pouvoir m'inscrire, et je suis tellement heureuse aujourd'hui d'être là.
Bravo. Eh bien, on va te montrer des photos de toi dans ton camp à HEC. Voilà. Ça, c'est dans ton camp, dans ta résidence. où je suis allée te rendre visite il y a, enfin, quand tu es arrivée. Donc tu es arrivée il y a un an et demi, puisque maintenant tu es en train de faire ta deuxième année de master, donc tu vas avoir fini bientôt. Et alors, donc, pendant ce temps, il y a Marwa qui arrive en France. Elle est d'abord arrivée en Allemagne, elle a été accueillie dans une famille d'accueil, puis elle est arrivée en France pour étudier à HEC toute seule. Et pendant ce temps-là, il y avait Ra qui était toujours à Kaboul. Mais notre podcast était sorti, la première saison du podcast qui s'appelle donc Inside Kaboul. Il y a aussi le film qui était sorti, vous avez vu la bande-annonce. Et donc, on avait peur que de plus en plus de personnes découvrent l'existence de ce projet et qu'elles puissent retrouver Ra, qu'elles puissent identifier Ra. Dans le podcast, on avait changé sa voix pour qu'elle soit pas reconnaissable. Ça fait partie des choses qu'on avait faites. Mais c'était évidemment quand même très dangereux pour elle de rester là-bas. Et moi, ce que j'ai décidé de faire avec elle et avec Marwa, on a décidé de se regrouper et de faire un espèce de comité de warriors pour essayer de faire sortir Ra d'Afghanistan. Et comme on posait la question tout à l'heure, effectivement, c'était très compliqué de faire sortir quelqu'un d'Afghanistan. Il a fallu qu'elle aille se faire des papiers, il a fallu qu'elle ait un passeport, il a fallu qu'elle aille chercher des visas. Et de plus en plus, les talibans mettent des restrictions pour les Afghans qui essayent de sortir du pays. Et puis, il n'y a plus d'ambassade de France en Afghanistan. Donc, quand on veut sortir d'Afghanistan, il faut aller soit en Iran, soit aller au Pakistan. Donc, il faut déjà acheter un visa pour les pays voisins et ensuite un deuxième visa pour la France. Donc, ça met des mois et des mois pour parvenir à sortir. Il faut demander à des gens d'envoyer des lettres pour soutenir votre candidature. Moi, j'ai écrit à plein de gens, notamment au directeur de Radio France, pour leur dire, est-ce que vous pouvez écrire des lettres de soutien pour dire que Ra est effectivement menacée si elle reste là-bas. Et finalement, ça a marché. Et en avril de l'année dernière, Ra a pu arriver ici, à Paris. Donc, on a des photos de la fameuse les retrouvailles avec Marwa. On a été chercher Ra à l'aéroport à Paris. Est-ce que tu te rappelles de ça, Ra? Do you remember that?
Of course.
Bien sûr.
It's gonna be 1 year already.
Ça va faire un an bientôt, ouais.
Et c'était quoi tes premières impressions en arrivant en France?
First impressions of me arriving in France. The first one, it is a bit funny.
Ma première impression.
I was in the plane and
c'est drôle, en fait.
Next to my husband, and
je somnolais dans l'avion. Et puis j'ai entendu l'hôtesse prendre la parole au parleur et je voyais qu'il faisait jour et on arrivait à Paris et il était à peu près 19h ou plus tard et moi j'étais très étonnée, je me disais ah bon, mais alors le soleil ne se couche jamais en Europe parce qu'en Afghanistan le soleil se couche plus tôt. C'était difficile de s'adapter justement à ces heures de lumière du jour différentes.
Le soleil se couche à la même heure tous les jours.
Il n'y a pas de saison. Enfin, pour le,
il n'y a pas de différence d'heure.
And besides that, I saw that the public transportation, I found them very interesting and
et puis autre impression, j'ai trouvé que les transports, notamment, vous savez, Paris, c'est la ville de la mode, etc. Et je trouve que même les costumes, les uniformes des contrôleurs ou même le design dans les bus, je trouvais ça très design, je trouvais très élégant. La tenue des contrôleurs et des chauffeurs. Et puis, autre chose que j'ai trouvé intéressant et qui m'a touchée.
Feux rouges sont parlants pour ils parlent et disent quand on peut traverser ou pas traverser quand on est malvoyant.
Pardon.
Et what about you, Marwa? I think there was something about dogs that I like. La première impression de Marwa en arrivant.
Your first impressions.
So I first arrived in Germany and it was a little bit strange to see dogs looking like cats, very tiny, short legs.
Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est les tout petits chiens, tout petits, de la taille d'un chat, et puis avec des jolis colliers, des pierres, des petits manteaux. Mais nous, en Afghanistan, on vit très collectivement et on visitait des Afghans en Allemagne.
And she wanted to speak with someone, and for me it was so strange that why someone that would have a family seule.
Ah non, voilà, c'était des Allemands. Et ce qui m'a frappé, c'est que nous, on vit dans la famille étendue, on vit avec nos aînés, les grands-parents. Et là, on est allé chez des connaissances de mon mari. Et je me suis aperçue que cette vieille femme, elle était en pleine solitude, qu'on ne s'occupait pas d'elle et qu'on la laissait finalement toute seule finir sa vie à l'écart de la famille, alors que nous, on les accueille avec nous.
Donc c'était intéressant pour moi, qui toujours, encore une fois, ne suis jamais allée en Afghanistan, d'essayer de comprendre c'est quoi l'Afghanistan en fonction des choses dont elle me, qui les surprenait ici. Donc notamment, j'ai compris qu'en Afghanistan, il n'y avait que des grands chiens sans collier, alors qu'ici, donc, les petits chiens ressemblent à des chats. Quand elle l'a vu pour la première fois, elle s'est dit que c'était pas possible d'avoir des chiens aussi petits. Et donc, on a passé quelques temps ensemble avec Marwa et Ra quand elles sont arrivées. On est allé évidemment visiter le Louvre. On a fait des photos dans les petites cabines. Ça, je pense qu'il n'y a pas non plus en Afghanistan, à Kaboul, des petites cabines pour prendre des photos. On a été voir la famille d'accueil de Ra, qui se trouve à Strasbourg. Donc, l'une et l'autre, elles ont été accueillies par des familles d'accueil qui les ont hébergées, qui les ont aidées pour toutes les démarches administratives en arrivant. Et pour aller à Strasbourg, on avait offert à Ra, quand elle est arrivée, une guitare, puisqu'elle avait dû détruire sa guitare et la laisser là-bas à Kaboul. Et donc, vous la voyez en bas qui est en train de partir avec sa guitare pour Strasbourg. Puis elle a eu un petit bébé parce qu'elle était partie enceinte. Elle a un petit bébé qui s'appelle Omar, comme Omar Sy, parce qu'elle adorait la série Lupin. Et puis, vous voyez en haut son mari, qui s'appelle Ashad, et qui est en train de nourrir leur petit garçon, qui s'appelle Omar, à l'hôpital, où il est né en juin dernier. Donc lui, il va bientôt avoir un an. Et pour terminer, on va passer aux questions-réponses, donc j'accélère un petit peu. Mais pour terminer, on est allé récemment... Enfin, c'était en novembre dernier, on nous a invités à aller parler, surtout Ra et Marwa, devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, pour parler de la condition des femmes. Et donc là, vous les voyez en train de s'habiller dans des costumes traditionnels pour aller parler à Strasbourg devant des... Enfin, à ce moment-là, c'était une conférence, et puis Ra a pris la parole devant 300 personnes dans l'hémicycle du Conseil européen. Peut-être une dernière question de ma part. Marwa, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris de cette expérience? Est-ce que tu es différente de la personne que tu étais il y a 2 ans?
I think throughout the last 2 years I have learned a lot.
Au fil des 2 dernières années,
the stuff that I observed, for example,
j'ai beaucoup observé.
Young people, they are more assertive in expressing their opinions. And I try to read
Par exemple,
books and
je vois
to change myself and les to
gens de mon
own.
Âge, garçons et filles, also, ils aiment exprimer leur opinion, dire ce qu'ils pensent, etc.
But also about recording sounds from because I remember
et
when I was recording
la prise
the sounds,
des notes vocales, je me rappelle quand je faisais des enregistrements pour Caroline, il y avait toujours des questions qu'elle m'envoyait et je devais prendre des sons d'ambiance, des ambiances. Et je me disais, mais... C'est quoi ces sons d'ambiance, etc. Et maintenant, j'ai compris, et ça fait partie de ma vie, en quelque sorte. Et un soir, je faisais la fête avec des amis, et j'ai envoyé une note vocale à Caroline. Je lui ai dit, je sais que le projet est fini, mais je suis tellement contente, je viens de passer une chouette soirée avec des amis, et je voulais t'envoyer sur le champ avec les sons, cette petite note. Et je savais que Caroline allait comprendre que j'étais heureuse ce soir-là, qu'elle entendait les voix joyeuses de mes amis. Mais aussi, depuis ces 2 ans, je me sens beaucoup de responsabilité parce que j'ai cette tribune en quelque sorte, j'ai été placée en position de m'exprimer.
Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a changé en moi pour être plus...
Et donc quelque chose a changé en moi. Je suis poussée à m'affirmer, à parler à voix haute, à partager mon expérience. Et même si parfois, parce que c'est l'exil, quand même, je me sens triste, mais je sais aussi que je peux exercer une influence, avoir un impact et aider à changer les choses pour les femmes d'Afghanistan et les hommes aussi. Donc le changement, c'est cette nouvelle responsabilité qui m'est donnée. Je dois faire du plaidoyer. C'est vraiment ça que je ressens.
Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est venu le temps d'entendre vos questions. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle.
C'est bon. Du coup, je parle en anglais ou en français ?
Ah, si tu parles anglais, vas-y, fais-le. Moi, je traduirai en français.
Bref, je m'appelle David et je viens de Berlioz. So my name is David and I come from Berlioz High School. So I'm actually in awe because we saw the conflict in Afghanistan. It was very widely mediatized, and it was only the part where there were a lot of violence in the conflict, where people were like Americans and the Taliban were fighting. But we didn't get like a lot of perspectives from the civilians. And I wanted to ask: did you see any of like? Did you feel? Any of the violence on both sides when there were not any Talibans yet in power? Or did all the violence and brutality come with the upbringing of the Talibans?
Maybe was there... Alors, moi, donc tu disais que... Merci pour ta question, que tu... que tu as vu beaucoup d'informations sur les talibans, mais assez peu de témoignages de civils, et que c'est ça que tu trouves intéressant aujourd'hui, donc tant mieux. Si j'ai bien compris, est-ce que ce que tu demandes, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de violence avant l'arrivée des talibans? Est-ce que vous avez été témoin de ça? Did you see violence before the arrival of the Taliban?
Yes, because even before their takeover, they were fighting in very rural areas.
Parce qu'il y avait des combats with the Taliban, right? Des combats entre l'armée régulière afghane et les talibans, même dans des zones rurales assez éloignées de la capitale.
So for the last two decades, the situation was like you are somewhere, and for example, even in Kabul, in the capital, a big explosion happens. And they target civilians or
mais depuis 20 ans, c'est comme ça. Tout est calme et puis tout à coup, il peut y avoir une explosion, une bombe. Des établissements scolaires sont visés par ces attentats, des universités.
Mosques or hospitals.
Les mosquées, les hôpitaux.
Each time there are like hundreds of people dying as of the explosion.
Et à chaque fois qu'il y a un attentat de la sorte,
putting magnetic bumps.
Il y a une centaine de victimes et il y a aussi des bombes qui sont placées sous les voitures, par exemple, des journalistes ou de ceux qui travaillent avec le gouvernement.
Donc,
il y avait cette guerre larvée dans le pays.
Mais oui, avant l'arrivée des talibans, c'était aléatoire, ça pouvait tomber sur quelqu'un à n'importe quel moment. Et donc on savait jamais quand ça pouvait arriver et si ça pouvait vous tomber dessus ou pas. Et ensuite la violence, elle a été systématique et spécialement elle visait pour le coup après l'arrivée des talibans toutes les femmes. Mais comme c'était les talibans qui mettaient souvent les bombes, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils en ont mis moins. Donc il y a aussi peut-être moins d'attentats. Donc certaines personnes sont soulagées qu'il y ait un petit peu plus de sécurité dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, il y a une question devant là.
Une question là.
Plein de questions. We're going to try and do quite short answers because there's lots of questions.
Du coup, je m'appelle Josué et je viens du 9-1, lycée Rosa Park. Et moi, j'ai deux questions. La première, d'abord, elle serait plus pour vous, Madame Caroline. et la deuxième plus pour Marwa et Rahab. Ma première question, c'est comment vous est-elle venue la vision en fait de pouvoir faire des notes vocales, du coup, d'où vous avez venu cette vision et quand vous avez mis cette chose en place? Et la deuxième question, c'est du coup pour Marwa et Rahab, pensez-vous qu'un jour l'Afghanistan pourrait être libre de l'emprise des talibans? Et si oui, comment pensez-vous que cela pourrait être mis en place?
Merci pour ta question. Alors, de mon côté, je racontais tout à l'heure comment j'ai mis en place le système des notes vocales. Tu sais, l'idée, c'était que pendant le Covid, je pouvais pas sortir de chez moi. Et donc, je me suis dit, je vais envoyer des notes vocales avec des gens pour qu'ils me racontent des choses sans que je puisse... Puisque je ne peux pas me déplacer, c'est eux qui vont rester chez eux et m'envoyer des notes vocales avec leur téléphone. Ce qui est assez fou, c'est que... En Afghanistan, je pense que si j'avais fait ce projet il y a 10 ans, les jeunes femmes comme Ra et Marwa, elles n'avaient pas forcément des téléphones qui étaient assez puissants pour prendre du bon son. Donc c'est quelque chose, j'aime bien me rappeler qu'on a quand même de la chance, vous et moi, d'exister à un moment où il y a des ressources incroyables, où on peut parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, juste avec un téléphone, lui envoyer un message, et se parler comme ça en direct, lui demander d'enregistrer des ambiances, lui demander de raconter sa vie. N'importe qui ici dans cette salle, si vous décidez, si vous avez un contact de quelqu'un qui vit très loin, vous pourriez devenir des reporters à distance en utilisant WhatsApp. Ça, c'était pas possible il y a même 10 ans, puisque je pense que Ra et Marwa n'auraient pas eu de téléphone assez performant, et puis il n'y aurait pas eu de WhatsApp, donc bref, c'est quand même... On dit tout le temps que c'est nul de vivre à cette époque-ci, qu'il n'y a que des drames et que c'est terrible. Mais il y a aussi plein de bonnes nouvelles. Et les technologies, ça peut être terrible et ça peut aussi être source de plein de possibilités, surtout pour échanger, pour se rencontrer. J'ai l'impression que moi, maintenant, je connais très très bien Marwa et Rahab et on est très proches. Et ça, c'est possible grâce aux nouvelles technologies. Alors qu'on habitait très très loin et qu'on est très différentes au niveau culturel, qu'on n'a pas la même religion, qu'on ne parle pas la même langue... qu'on mange pas la même chose, et pourtant on est devenu très proche grâce à WhatsApp. Alors, so there was the question: do you think Taliban is going to go away?
I think and I hope one day, because when people are not happy, of course they cannot last for
jour,
so long.
Les talibans ne seront qu'un souvenir. Quand les gens sont malheureux, ça ne peut pas durer une éternité non plus.
But I don't know how maybe if other countries stop supporting Taliban and they start putting pressure on the Taliban to make their government more inclusive.
Certains pays retirent leur soutien aux talibans et mettent un peu la pression pour que les talibans deviennent plus inclusifs et acceptent de partager un peu démocratiquement le pouvoir et changent en fait de doctrine.
But I don't know when. I hope so soon.
Je ne sais pas quand ça pourra se passer. J'aimerais que ce soit bientôt.
Encore une question. Il y en a devant là qui sont impatientes. Ouais. Mais il y en a peut-être plus loin. Là aussi, là-bas.
Les hommes de votre famille, que pensent-ils de ce régime taliban?
Oh, pardon, pardon. Encore, tu peux répéter?
Lève-toi, tu peux
pas. Ah, c'est bon, ok.
Les hommes
Merci.
De votre famille, que pensent-ils de ce régime taliban?
Merci.
Ils détestent le régime taliban, les hommes de notre famille.
Because my father, what they do doesn't have a religious or cultural justification.
D'ailleurs, ce que font les talibans n'a aucune justification religieuse ou autre.
As a Muslim, my father was always very passionate about our education and our career.
Mon père s'est toujours intéressé à l'éducation. Il est musulman lui aussi.
Yeah, my father, my husband, my brother, my cousins, my colleagues, every man that I know,
mon cousin,
all of
mes
them
collègues,
hates them
père,
for what they
frère,
did for us.
Mes cousins, tous haïssent les talibans pour ce qu'ils nous ont fait.
And I want to say that it is not only about women, men are also victims.
Ce ne sont pas que les femmes qui sont opprimées par le régime, les
you
hommes
cannot
aussi.
Wear what you want.
Ils ne peuvent pas s'habiller non plus comme ils
you
le souhaitent. Ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique. Ils ne peuvent pas devenir journalistes. Ils ne peuvent pas rejoindre l'armée, devenir soldats. Ils ne peuvent pas se servir des technologies comme ils le souhaitent.
You cannot do even your haircut, you're not allowed to.
They will torture you on the streets.
Et même la coupe de cheveux, on peut on vous torturer, vous raser la tête en pleine rue pour vous faire honte. Il n'y a pas d'avenir pour personne.
Je ne sais pas combien d'entre vous portent des jeans, par exemple, dans cette salle. Et sans doute quelques-uns. Eh ben, on n'a pas le droit de porter des jeans en Afghanistan, même quand on est un garçon. C'est un petit détail, mais ça permet de se figurer un peu. Alors, encore une question.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ayoub, je suis un élève du lycée de la Plaine de Neufs et je vais vous poser deux questions. Comment les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan et comment était la vie en Afghanistan avant l'arrivée des talibans?
How did it take power
and how was life before them?
As Marwa explained, she said that there was explosions
Marwa,
everywhere, anytime.
Il y avait des attentats tout le temps.
Guess that where would it happen? I remember one time that I got out of house and I was
fois,
going to office.
De la maison, j'allais au bureau.
3 minutes away from a big explosion happened near to near to the place I was living.
Et à 3 minutes de là où je vivais, il y a eu un énorme attentat, une grosse explosion.
Maybe that was a miracle for me to live after that, but I was just 3 minutes away from my death. And
en fait, je partais 3 minutes plus tôt ou plus tard, je mourais.
Explosions.
Et c'est comme ça que les talibans ont pris le pouvoir en faisant des attentats dans les universités, les hôpitaux, dans les rues.
Some of you, if you have followed the news, there was a big debate and panel and the contract in Doha that they did. And
there, il y a eu un contrat, un accord signé à Doha.
And they promised that we will let Afghan women to get education, get their
et
educations.
Les talibans ont fait semblant qu'ils allaient autoriser les femmes à travailler, à poursuivre leurs études, et que tout le monde continuerait de jouir de ses droits. Accès à la liberté, à l'éducation. C'était les promesses qui avaient été faites à Doha, mais ce sont des grands menteurs. Après que les forces alliées américaines ont quitté le pays, ils n'ont rien respecté de ce à quoi ils s'étaient engagés par cet accord. Et puis, en fait, c'est arrivé graduellement, la restriction des libertés.
Ils ont exercé des pressions, notamment
sur les fonctionnaires. Mon père était fonctionnaire. Il a été arrêté de multiples fois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça du jour au lendemain. Ça couvait depuis de longues années et finalement, ils sont arrivés à leur fin.
Comme quoi, il faut toujours être vigilant parce que ça peut arriver petit à petit. Et on ne s'en rend pas compte tout de suite que c'est très dangereux. Est-ce qu'il y a encore des questions à...
Allô, il n'y a pas un méchant.
Quoi ?
Bonjour, je m'appelle Sabri, je viens du 9-3 à Saint-Denis. Ma question serait, quels sont les risques d'être aujourd'hui avec nous est-ce que vous ressentez de la peur encore actuellement? En fait, vous avez parlé de risques de ne pas aller filmer, etc. Quels sont les risques, en fait, d'être avec nous aujourd'hui? Voilà. 9-3 de Saint-Denis.
What are the risks you're taking today?
Today, since it's a closed space and it's only with
ici,
you, so we don't take any risk.
On ne prend pas de risque parce qu'on est dans un espace fermé.
But if it was broadcasted, if it was public,
et qu'on est entre nous, mais si c'était radiodiffusé,
si ça passait
à la télé, là ce serait un risque. Parce que nos familles, certains sont encore dans un camp de réfugiés à Islamabad et ça peut compromettre leur chance d'avoir un visa s'ils reconnaissent quelqu'un de la famille. Et s'ils retournent en Afghanistan, ils peuvent être poursuivis pour ce qu'on fait aujourd'hui avec Raas, c'est-à-dire parler contre les talibans et témoigner. Et le simple fait de s'exprimer à voix haute en tant que femme et de montrer son visage, c'est déjà un crime pour les talibans. Donc voilà les risques.
Hello.
My name is Yumna. My question was, why are the Taliban doing all of that, like forbid the music and all of those things, like it's not gonna kill them?
Donc la question c'est pourquoi est-ce que les talibans interdisent tout, la musique, les danses, de s'habiller librement, c'est ça?
Because they are scared of a free society. They are scared
of. Parce qu'ils ont peur d'une société libre.
They are scared that if you become a person of your thoughts, if you follow your thoughts,
ils craignent que si chacun est libre de penser, vous allez petit à petit devenir acquérir du pouvoir. La musique, c'est un message de paix, par ailleurs. Donc, et ils veulent fermer tous les chemins susceptibles de conduire à la paix, justement, et à l'harmonie de la société.
Bonjour. Bonjour.
Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous avez fait pour communiquer avec vos familles?
How did you communicate with your families, your relatives who stayed there?
Merci et bravo encore pour toutes les questions.
Comment vous avez fait pour communiquer avec vos familles?
How did you communicate with your families? Ah, il marche plus. Si tu parles fort, ouais. Est-ce que vous avez vu vos familles depuis que vous êtes arrivé en France?
Oh, have you seen
your family since you arrived in France? Did you see them?
No, it has been almost 3 years. No, we haven't seen our families since we left.
Ça fait près de 3 ans et je n'ai pas revu mes proches depuis mon départ.
We communicate over WhatsApp, so
on communique par WhatsApp.
Call each other regularly. We do
donc on
FaceTime
s'appelle
sometime.
Souvent, on passe par FaceTime aussi pour se voir aussi.
But we cannot speak about everything because
avec le téléphone, mais on ne peut pas parler de tout ce qu'on veut. Les talibans
so sure
contrôlent les télécommunications.
You are not putting them at risk and you are not speaking about any them.
Et donc il ne faut
pas
créer des risques ou il ne faut pas risquer de mettre les talibans en colère au cas où on soit sur écoute.
Bonjour, je viens du 9-2 et j'avais une question, surtout pour Caroline. Comment vous avez connu Marwa et Ra? Parce que du coup, vous n'aviez aucun moyen d'avoir leur numéro.
Oui, bonne question. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je connaissais un garçon qui habitait Kaboul et qui était francophone. À l'époque où je faisais des émissions auparavant, quand je faisais des émissions ces dernières années. Et donc, au moment où les talibans sont entrés dans Kaboul, j'ai contacté cet ami et je lui ai dit « Est-ce que tu connais des jeunes filles francophones ?» Il m'a dit « Non, il n'y a plus personne de francophone à Kaboul, ça y est, tout le monde est déjà parti. Mais par contre, je connais deux anglophones et elles sont super. » Et donc, on a commencé à échanger. Il m'a mis en contact avec Ra et Marwa. Donc, c'est un peu aussi simple que ça, finalement. Souvent, c'est comme ça qu'on travaille quand on est journaliste. On va chercher des contacts soit dans les journaux, on va chercher via des associations où on va aussi demander autour de soi et parfois des amis peuvent avoir des bons contacts. Et en fait, il fallait que ce soit des jeunes femmes anglophones pour qu'on puisse échanger tous les jours. Mais c'est vrai que du coup, Marwa et Ra, c'est deux jeunes filles qui ont pu aller à l'école, qui ont pu aller à l'université. Donc elles font partie de la classe moyenne dont les parents... Enfin voilà, c'est pas, elles ne sont pas super représentatives de la... population afghane, dont la majorité, je pense, est un peu plus pauvre et parle pas forcément français, anglais. Il n'y a pas beaucoup d'Afghans. C'est une minorité, très petite minorité, qui parle anglais. Mais pour moi, c'était important. Donc, elles ne sont pas très représentatives, mais néanmoins, ça a permis l'existence de ce projet. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Oui, il y a une jeune fille au troisième rang après qui se lève. Il y a Marwa qui m'a écrit sur le petit papier. Est-ce qu'on peut la laisser parler parce que elle arrête pas de se lever et de... Mais vas-y. La première question d'abord et après.
Bonjour.
Bonjour.
I wanted to ask, wasn't there any resistance from the civilians? Est-ce qu'il n'y avait pas de résistance de la part des civils?
For the resistance from the civilians when the Taliban took over.
For the last 20 years, Afghan army was fighting with Taliban in different
provinces.
Depuis 20
ans, l'armée afghane lutte contre les talibans dans les différentes provinces du pays.
And there was thousands of young men and women who lost their lives fighting with
Taliban. Et des milliers
d'hommes
et de jeunes femmes aussi ont perdu leur vie dans ces combats contre les talibans.
And when they took over of the country, there was the resistance in Panjshir province.
Et quand ils ont pris le pays, finalement, il y avait encore une poche de résistance dans la province du Panjshir.
With so many of military forces of the previous government.
May go on because I need to know where you go.
And then after 25 days, one day we woke up and we saw the news that there was this Pakistani drones who helped Taliban and they bombarded the resistance in Panjshir.
Les Pakistanais ont aidé les Talibans et ont écrasé la résistance dans le Panjshir. C'était là où était
le commandant
Massoud. Ah, oui. Oui, voilà. Oui.
There is still resistance, but very small because they don't have support and logistics.
Mais ils manquent complètement de moyens, ils n'ont pas de logistique, pas de support disponible.
Moi, but Taliban has everything from the previous government and support of Pakistan as well.
Mais ils ont le soutien du Pakistan. Et c'est vrai, et moi je voulais juste rajouter, parce qu'il y a aussi de la résistance, par exemple, à l'échelle de Kaboul, ou dans d'autres provinces, où, par exemple, il y a des femmes et des hommes qui organisent des écoles clandestines pour faire en sorte que les jeunes filles puissent continuer à aller à l'école, mais de façon cachée, donc elles se cachent. Ou alors il y a des femmes qui produisent des émissions de radio pour qu'on puisse apprendre en écoutant la radio. Je sais que, par exemple, le frère et la belle-sœur de Ra donnaient des cours, et ils ont été arrêtés pour ça et torturés. Il y a aussi des endroits où des femmes manifestent, elles vont dans les rues, elles manifestent, mais en fait, dès qu'elles sortent les panneaux, au bout de 10 minutes, elles se font arrêter par les talibans. Donc ça fait partie de toutes les choses auxquelles je pense maintenant, quand je vais manifester, par exemple, de pouvoir marcher librement avec une pancarte, sans qu'on se fasse, au bout de 5 minutes, arrêter. C'est encore un droit important et que tout le monde n'a pas. Mais il y en a plein, du coup, vous avez entendu la liste de tous les droits qu'on doit chérir ici. Une dernière question.
Ça a pris combien de temps d'organiser le voyage pour aller à Paris?
Je crois que on a commencé à faire les démarches en juin-juillet. On a commencé à faire les démarches pour avoir des passeports. Enfin, elle avait déjà un passeport, Raa, mais ensuite on a fait les démarches pour les visas. Et j'ai réussi à trouver un numéro de téléphone par grande chance d'une dame qui nous a aidé à avoir le premier visa. J'ai pas le droit de dire son nom parce que c'était une aide secrète. Finalement, elle a réussi à sortir pour le Pakistan en janvier et elle est arrivée en France en avril. Donc ça a mis depuis juin, juillet jusqu'à avril pour arriver en France. Donc beaucoup, beaucoup de mois. Où on avait très très peur, donc j'ai été très soulagée quand elle a pu sortir, et on a pleuré comme des madeleines toutes les trois quand on s'est retrouvées à Charles de Gaulle. Ça se voyait pas sur la photo, mais je me permets d'ailleurs de vous montrer cette belle image qui a été faite par Esther Marek, qui m'a beaucoup aidée à faire ce PowerPoint, merci à elle, et aussi vous montrer, si vous avez envie d'entendre la suite des histoires ou d'entendre en longueur Marwa Era, parce que là on a dû parler très vite et on a pu aborder seulement certaines questions, mais il y a les podcasts qui sont disponibles, il y a Inside et Outside Kaboul, ça fait en tout je pense 8 heures ou 9 heures d'écoute si vous écoutez des podcasts, n'hésitez pas. Et je sais pas si on a, c'est pas moi qui suis la maîtresse de l'horloge, je sais pas, il reste 2 minutes, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Et sinon, on est sur les réseaux sociaux aussi, donc vous pouvez nous suivre, m'envoyer des questions si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps de poser. Alors, oui, sur mon Instagram, dira, bah oui, je donne toutes les nouvelles. Et...
Ah, c'est grave. C'est...
Alors, on t'écoute.
Alors, je me demandais si jamais les talibans partent, vous envisagerez retourner en Afghanistan, même si maintenant vous avez une situation stable en France.
Yes.
Oui, dira.
Yes, for sure. Yeah,
et Marwa est d'accord également. Oui, elle retournerait dans leur pays.
Because our country needs us to rebuild it.
Parce que notre pays a besoin de nous, il faut le reconstruire.
Ben merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir été tellement à l'écoute, tellement patient et attentif.